Alors, frères et sœurs, ce matin, ouvrons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, au chapitre 21. On va lire les versets 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor. Donc, le île, ça nous parle du peuple d'Israël. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte ? Pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit : Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, il le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Alors, voilà près de 40 ans, 40 années que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, avançait vers la terre promise. Alors ce voyage depuis l'Égypte n'aurait pas normalement dû prendre 40 ans. Mais à cause de l'incrédulité du peuple, à cause de sa désobéissance à plusieurs reprises aussi, eh bien les Israélites durent marcher dans le désert pendant cette si longue durée. Mais désormais Israël, en fait, n'a jamais été aussi proche de Canaan. Au moment du passage que je viens de lire, il n'est plus très loin. Il se trouve un peu aux portes, en fait, du pays promis. Mais il y a un nouveau contretemps qui se présente et qui les oblige donc à contourner Édom par le chemin de la mer Rouge, comme il est écrit. Et si on regarde un peu, en regardant dans des commentaires ou des cartes de l'époque, on peut voir que ça a rallongé leur voyage d'environ encore à peu près 200 km, soit encore une dizaine de jours de marche en plus. Alors, 10 jours par rapport à 40 ans, on pourrait se dire que c'est peut-être pas grand-chose. Mais voilà, le peuple est fatigué. Il venait en plus de presque toucher au but. Et désormais, il le voit de nouveau s'éloigner. Alors le peuple s'impatienta. Et humainement parlant, je pense que nous pouvons les comprendre. On n'aurait peut-être d'ailleurs pas réagi autrement. Et ça devait en effet être très dur à accepter. Et que fait le peuple ? Donc il se révolte. Il se révolte contre Dieu et contre Moïse. Alors on pourrait se dire aussi qu'après justement ces 4 décennies qu'ils viennent de passer dans le désert, alors qu'ils ont déjà vu l'amour, la patience, la fidélité, la puissance de Dieu aussi à l'œuvre, ils auraient quand même dû agir autrement. Mais lorsqu'une épreuve ou une contrariété arrive, eh bien la réaction humaine est quand même souvent celle-ci. Et celle décrite ici, l'amertume, le désespoir, le découragement. Et en soi, les pourquoi même pourraient être légitimes. Mais la révolte, la colère, elles ne le sont pas et ne pourront jamais l'être. Nous ne devons jamais en effet oublier que Dieu n'est pas au service de l'homme et que le Créateur restera toujours au-dessus de ses créatures et que son plan est toujours parfait. Même si nous ne le comprenons pas toujours. Parce que, en fait, la bonne réaction serait sûrement de se rappeler justement que derrière toutes ces contrariétés, toutes ces épreuves, se cache en fait une ou plusieurs leçons que le Seigneur veut utiliser pour nous aider à grandir dans la foi. Et c'est ce que, d'ailleurs, Job avait bien compris. Si on lit dans le livre de Job au chapitre 2, on peut voir Job qui dit quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas de lui aussi le mal. Mais le peuple ici n'a pas eu ce réflexe, justement, de voir tout déjà les bénédictions qu'il a eues. Ce qui va obliger Dieu à intervenir pour le punir de son incrédulité une nouvelle fois, pour le punir de ses murmures. Et cette intervention, on vient de le lire, c'est un terrible fléau, des serpents brûlants qui causèrent la mort d'un grand nombre. Et des serpents dans le désert, c'est pas nouveau, surtout dans ces régions-là, il devait déjà en avoir. Et Deutéronome au chapitre 8 nous le dit aussi. Hein. Dieu t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions. Parce que oui, il est fréquent d'en rencontrer là-bas. Mais dans notre contexte, c'était différent. Il est écrit que l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ça ne devait pas être juste un serpent qu'il rencontrait par hasard, mais sûrement un grand nombre de serpents qui se dirigeaient vers le peuple avec une volonté qui était de le mordre, de l'attaquer. Une attaque, une morsure qui n'entraînait d'ailleurs qu'une chose, la mort de celui qui avait été mordu. Donc des serpents face auxquels le peuple s'est retrouvé bien démuni, sans solution pour s'en débarrasser ou même pour fuir. Et toutes les tribus étaient concernées, toutes les familles étaient touchées par la mort de l'un des leurs. Alors Dieu n'a bien évidemment pas fait cela par vengeance, n'a pas fait par plaisir, encore une fois par nécessité. Par nécessité afin d'amener son peuple à l'humilité, de l'amener à reconnaître sa faiblesse et le fait qu'il ne pouvait rien faire sans l'aide de Dieu. Dans les psaumes, chapitre 78, on peut lire aussi versets 34-35. Quand il les frappait de mort, il le cherchait. Il revenait et se tournait vers Dieu. Il se souvenait que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Dans Jacques 4, 6, chapitre 4, verset 6, on peut lire aussi « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alors oui, malheureusement, Dieu n'a parfois pas d'autre choix. Pas d'autre choix pour réveiller les consciences, d'agir ainsi, d'agir peut-être durement, envers son peuple, ou même envers nous encore aujourd'hui. Et c'est ce qui arriva. Le peuple l'a recherché. Le peuple vint à Moïse et il a dit « Nous avons péché. » Nous avons péché, nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Le peuple fait acte de repentance en allant trouver Moïse pour reconnaître son péché, lui demander d'intercéder auprès de l'Éternel pour éloigner ses serpents. Une repentance des Hébreux qui était sincère, puisque Dieu écoute aussitôt d'ailleurs, on va le voir après, l'intercession de Moïse et il va y répondre. Mais avant même de voir encore cette réponse, ce qu'on peut déjà encore observé, c'est qu'une fois de plus, Dieu a montré sa grande patience. Le Seigneur aurait eu bien souvent l'occasion d'abandonner son peuple, mais il ne l'a pas fait, il ne l'a jamais fait. Parce que l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Et il l'a démontré ici, donc en dévoilant à Moïse le remède, la solution salvatrice pour le peuple, et cette solution, c'était quoi? C'était que Moïse devait élever sur une perche un serpent d'airain. Et tous ceux qui croyaient en la promesse de Dieu contempleraient alors cette image du mal dont ils souffraient, seraient alors guéris. Alors fabriquer un serpent d'airain, l'élever sur une perche, pourrait paraître à première vue une solution un peu facile, peu banale, peut-être même absurde, si je peux me permettre. Et ça pourrait même être, on pourrait se dire, un risque d'ailleurs que Dieu a pris, parce que quand on connaît le cœur de l'homme, toute l'idolâtrie qu'il y a dans le cœur de l'homme aussi, élever une statue, l'homme forcément va se tourner vers cette statue peut-être à un moment, et d'ailleurs, si on prend d'ailleurs dans le livre des deux rois, on peut voir Ézéchias qui était alors roi de Juda, qui a dû intervenir d'ailleurs justement, et qui fit disparaître, et mis en pièces, même il est écrit, le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. Il lui a même donné un nom. Mais c'est vrai qu'en regardant ce serpent, le peuple pouvait se demander, mais est-ce qu'un objet peut réellement faire quelque chose sur moi, pour ma maladie, pour cette morsure? Alors bien évidemment, l'objet en tant que tel, non. Il ne pouvait rien faire. Ce serpent ne détenait aucune puissance par lui-même. Il n'était là que pour stimuler en fait le peuple, pour inviter le peuple à placer sa confiance en Dieu lui-même. Chacun devait lever les yeux vers ce serpent, et tout en levant les yeux, chacun devait et pouvait croire au secours et à l'intervention divine. Il leur fallait un regard de foi. Si les serpents avaient été immédiatement éliminés, si c'était ce remède-là que le Seigneur avait donné, que Dieu avait donné, Le peuple aurait probablement considéré qu'il s'agissait d'un événement accidentel et que le mal avait disparu peut-être par des moyens naturels. Si, ou encore, c'est pareil, dans l'aide accordée, quelque chose avait dû être appliqué, un traitement, une cérémonie, des prières particulières. Sûrement aussi que, à ce moment-là, la puissance et la bonté de Dieu auraient un moment été jetées dans l'ombre, on les aurait vite oubliées. Mais Dieu voulait que le peuple comprenne et soit persuadé qu'il était sauvé de la mort par sa seule grâce. D'où ce remède, d'une absurdité peut-être apparente, mais qui en réalité rendait toute la gloire et l'honneur à Dieu, et à Dieu seul. Par cette perche, qui était élevée avec ce serpent dessus, Dieu disait au peuple à ce moment-là, « Voilà la solution, voilà ma solution. Que celui qui veut la prendre, la prenne librement en y regardant simplement. Il te suffit de lever les yeux pour obtenir ta guérison. Et ce n'est pas plus difficile que ça. » Et celui qui avait subi ces morsures mortelles, qui témoignait de sa confiance en Dieu en levant les yeux vers cette solution, avait alors la vie sauve. Je pourrais m'arrêter là ce matin, parce qu'il y a déjà des enseignements à prendre quand on regarde justement ce regard de foi qui est demandé. Le fait de devoir placer notre confiance en Dieu seul, comme a dû le faire Israël. Mais alors que le peuple, lui, ne connaissait pas encore ce qui allait arriver, des années plus tard, alors qu'il ne pouvait pas encore imaginer le sens complet de cette guérison qui lui a été accordée, eh bien ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Dieu nous a donné sa parole, et par elle, il nous a donné le privilège de la révélation complète de son plan pour l'homme, pour l'humanité. Je vais lire Jean chapitre 3, versets 14 et 15. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » On pourrait dire deux perches dressées. Une dans l'ancienne alliance et l'autre dans la nouvelle alliance. La première dans ce texte du livre des Nombres, la seconde dans les évangiles. Et les deux avec le même message de Dieu qui dévoile la possibilité d'être sauvé par le seul regard de la foi. Alors je vais encore prendre un petit temps justement avec vous aussi, justement sur ces analogies entre ces deux événements, mais qui, encore une fois, tous les deux nous redirigent vers cette bonne nouvelle, le salut des hommes par la foi en Jésus-Christ. Alors si nous reprenons ce qui est arrivé aux Israélites dans le désert, donc, je l'ai dit, ils furent mordus par des serpents brûlants. Mais ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, c'est que tout homme est dès la naissance dans le même état que l'Israélite qui a été mordu par ces serpents brûlants. Les Israélites étaient mordus par des serpents, mais l'homme est quant à lui mordu par le péché. Car oui, le péché habite en l'homme. Riche ou pauvre, jeune ou vieux, respecté ou méprisé, tout homme est concerné. Tout homme est pécheur, tous sont pécheurs. Cette vérité est terrible, et bien souvent, on peut chercher à l'atténuer en disant que, ben oui, je sais, je suis un pécheur. Toute l'humanité est composée de pécheurs. Une confession qui atteste peut-être de l'existence du péché, mais qui reste souvent, malheureusement, bien trop générale. Une confession que peu d'hommes, en réalité, savent ramener à eux-mêmes. Que peu d'hommes savent reconnaître comme étant applicable à eux-mêmes. On peut se dire que nous ne sommes pas si pécheurs que cela aussi, peut-être, que nous ne faisons pas de si gros péchés, ce sont des petits. Mais je suis persuadé que si on regardait à toute notre vie, et que même si nos péchés sont comme de la taille d'un grain de sable, eh bien on aurait une montagne devant nous, j'aurais une montagne devant moi. Et encore une fois, même un seul d'ailleurs péché suffirait à me condamner. Oui, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous mordus par le péché. Et ce n'est pas moi, encore une fois, qui le dis aussi, c'est la parole de Dieu. Si on lit Romains 3, chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il ne faut pas sous-estimer aussi, justement, le mal amené par cette morsure. On nous dit dans le texte des Nombres que ces serpents étaient des serpents brûlants. Alors pourquoi brûlants ? On peut trouver différentes explications. Une qui plutôt a trait à la couleur sûrement de ces serpents qui dans ces régions étaient souvent d'une couleur un peu orange ou jaune avec des taches rouge-brun. Mais c'était surtout en fait en lien à l'effet brûlant de son venin. Un venin qui échauffait, qui enflammait le sang, qui refaisait ressentir une violente inflammation, une forte soif, qui provoquait une douleur intense dans tout le corps, jusqu'à la mort physique par le venin de ce serpent. Et si le venin du serpent se ressent rapidement et se voit rapidement, nous ne pouvons pas dire que le péché produise toujours et instantanément un tel effet visible sur les hommes. Mais en réalité, je peux affirmer ce matin, nous pouvons affirmer que si nous laissons le péché agir, eh bien celui-ci va nous emmener dans des misères bien plus extrêmes encore que cette souffrance qu'ont dû ressentir les Israélites. Le poison du péché opérant en nous, dans le silence peut-être, en secret, mais continuellement et avec efficacité. Et l'effet de cette opération du péché en nous, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6. Une mort physique pour le venin du serpent, mais une mort spirituelle par le venin du péché. Une mort que l'Écriture décrit comme un châtiment éternel, où les perdus seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Là où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Ces deux passages se trouvent dans les évangiles. Une mort vers laquelle l'homme va et dont il est impossible de se guérir soi-même. Personne ne peut, de quelque manière que ce soit, éviter la mort, qui est la conséquence du péché qui habite en lui. Toute la science des médecins ne peut l'éloigner, et même avec toutes les richesses de la terre, un homme ne pourrait l'engager à se tenir loin de lui. Mais alors que faire ? On l'a vu tout à l'heure, Dieu a donné un remède à son peuple. Mais avant cela, que s'est-il passé ? Je vais relire le verset 7 du passage de Nombres. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Le peuple s'est repenti. En venant devant Moïse, par ses paroles, il a avoué sa culpabilité. Il a reconnu qu'il n'y avait pas d'autre remède pour eux que d'obtenir le pardon de Dieu. Et ce que le peuple a fait, c'est ce que nous devons également faire aujourd'hui. Il nous faut reconnaître notre ruine. Reconnaître notre état de pécheur, notre culpabilité, et recourir humblement à la miséricorde de Dieu. Recourir à son remède, à son salut. Sans cela, nous n'aurons pas d'accès au remède offert par Dieu. Nous resterons sous le jugement, sous la condamnation. Et la mort restera alors la destination qui nous attendra. Rien de ce que nous pourrions faire ne pourra modifier cette sentence. Mais Dieu, lui, le peut. Et si nous avons un cœur repentant, que nous venons nous adresser à lui, alors il nous offrira la délivrance que nous allons voir maintenant. Pour délivrer son peuple, Dieu demanda à Moïse de fabriquer et d'élever ce serpent d'airain, un serpent qui était alors l'image du fléau que le peuple subissait, mais du fléau qui était vaincu. Il représentait l'ennemi qui était réduit à l'impuissance. Et il était élevé bien haut afin que tous les Israélites puissent voir comme à l'œil, en fait d'un coup d'œil, le triomphe de Dieu sur le mal qui les dévorait. Le remède des Israélites mordus était un serpent d'airain, et bien le remède pour les pécheurs est Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ élevé et mort sur la croix pour nous. Et c'est bien ce qu'on a lu aussi dans Jean au chapitre 3 tout à l'heure. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jean chapitre 12 nous confirme aussi ce sens du mot élevé par une autre déclaration de Jésus lui-même qui dit « Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi-même. » Et or, il disait cela pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Christ crucifié. Alors le serpent d'airain était l'image d'un serpent mort qui ne détenait pas de venin en lui-même, qui avait la forme d'un serpent brûlant, mais de la même manière, Christ a été envoyé sur la terre dans un corps d'homme. Et celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça se trouve dans la deuxième épître de Corinthiens. Romains chapitre 8 nous dit aussi « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Afin de pouvoir être sauvé, il a fallu que Jésus devienne le substitut de notre péché. Et c'est notre péché posé sur Christ, sur la croix, qui nous guérit. Sur la croix, sur cette croix, Jésus a pris sur lui-même ce qui nous séparait de Dieu. Il a vaincu cet ennemi. Sur la croix, le péché a été tué. Et il a été pendu comme un serpent mort, on pourrait dire. La mort a été mise à mort. Alors oui, Christ est sur la croix et le remède offert par notre Dieu pour notre salut. Et ce remède, je vais le redire, c'est le seul possible. Il n'y en a pas d'autre. Le peuple aurait pu tenter d'éviter la mort provoquée par les morsures, par ses propres efforts, en fuyant, en cherchant à les tuer avec des armes, en se dépêchant de trouver un guérisseur, un traitement, mais ça n'aurait servi à rien. De même, il n'y avait qu'un seul serpent dans le camp. Le peuple aurait pu en peut-être élever un deuxième serpent d'airain, mais qui n'aurait eu aucun effet. Il n'y en avait qu'un et un seul qui était élevé au centre du camp afin que si quelqu'un était mordu par un serpent, il puisse y regarder et vivre. Il en est de même pour nous aujourd'hui aussi, il y a un sauveur et un seul. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Toute grâce est concentrée en Jésus-Christ. Jésus-Christ portant la malédiction et mettant fin à la malédiction. Christ étant tué par le péché et détruisant le péché. Jésus est le seul remède pour toutes les formes de blessures empoisonnées du péché contre notre mort spirituelle. Votre seul remède demeure en Christ, réside en Christ et nulle part ailleurs. Alors maintenant que nous savons quel est le remède, il restait quand même une dernière étape pour en recevoir le bénéfice. Parce que qu'est-ce qu'a dû faire le peuple devant le serpent d'airain pour être vraiment guéri et vivre? Il a dû le regarder. Ce serpent aurait pu être, si Dieu l'avait ordonné, voilà, mis dans une. Peut-être qu'il aurait pu dire, m'a mettez dans une maison, faites encore une fois d'autres choses, des prières devant lui. Non, non. Il leur a dit, regardez-le. Rien d'autre à faire, juste le regarder. Regardez l'endroit où brillait au loin l'éclat du serpent d'airain, et au moment où on portait ce regard sur lui, la personne était guérie. Rien d'autre que se confier en la puissance de Dieu et de croire en lui, dans le salut qu'il leur offrait. La question n'était pas de savoir ou comprendre comment ça fonctionnait. Il suffisait de croire que si Dieu avait ordonné, alors cela s'accomplirait. Cela accomplirait le résultat promis. Alors les Israélites devaient regarder, et le pécheur convaincu doit croire. Oui, croyez en Christ. Parce que c'est là la signification aussi spirituelle du mot « regarder ». Et aussitôt votre péché sera pardonné. Son pouvoir mortel cessera d'opérer en vous et vous vivrez. Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3, verset 36. De même que les Israélites ont pu être sauvés d'une mort certaine, regardant donc ce serpent, de même, tous peuvent être désormais sauvés de la mort provoquée par le péché en portant un regard de foi sur la mort de Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ est le seul remède, mais Jésus-Christ lui-même ne peut pas ou ne veut pas vous sauver, à moins que vous ne placiez votre confiance en lui. Il n'y a rien dans sa mort pour vous sauver, il n'y a rien dans sa vie pour vous sauver, à moins que vous ne lui fassiez confiance et que vous croyiez en lui. Sauvé par la grâce de Dieu, par la foi, comme l'auteur de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2 nous le dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Croire en Jésus-Christ. Mais croire, c'est important de le noter, que c'est quelque chose de personnel. Personne ne peut croire pour vous. Un homme ne pouvait être guéri par quoi que ce soit d'autre que quelqu'un aurait fait pour lui, à l'époque du peuple de Dieu dans le désert. S'il avait été mordu, avait refusé de regarder le serpent d'airain, même s'il demandait des prières aux autres, même s'il envoyait même peut-être quelqu'un à sa place pour regarder le serpent en disant « Vas-y pour moi et ça va peut-être marcher », maintenant ça ne marchera pas. Il n'y avait qu'un seul espoir pour cette personne mordue, c'était, encore une fois, se tourner lui-même vers ce serpent d'airain. Et croire, c'est à chacun de nous de le décider aussi. Avec cette promesse qui est présente dans l'évangile de Marc, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et on nous dit dans le texte que si un serpent avait mordu un homme, lorsqu'il vit le serpent d'airain, il vécut. C'est-à-dire qu'il fut guéri sur le champ. Pas besoin d'attendre une heure, quelques secondes, quelques minutes ou plus, c'était tout de suite. Eh bien, le pardon n'est pas une œuvre de temps non plus, qui demande du temps. La sanctification a besoin d'une vie, mais la justification n'a besoin que d'un moment. Vous croyez, vous vivez. Vous mettez votre confiance en Christ et vos péchés sont partis, ont disparu, vous en êtes délivré. Vous êtes alors un homme sauvé, juste à ce moment-là où vous témoignerez devant Christ, devant sa croix, que vous croyez en lui, en ce qu'il a fait pour vous. Alors ce matin, je vais vous inviter à ne pas faire partie aussi des Israélites, justement, qui sont morts dans le camp, de cette partie du peuple qui a peut-être fermé obstinément les yeux, qui n'a pas voulu regarder, par incrédulité. À quoi cela aurait-il servi? Qui n'a pas voulu... Ou alors de cette partie peut-être du peuple qui s'est dit « mais je regarderai plus tard. Pour l'instant ça va, je sais gérer peut-être la douleur, j'ai encore un peu de temps. » Mais avant même qu'il ait prononcé le dernier mot, la mort l'avait emporté. Ne faites pas partie non plus de ceux qui étaient tellement occupés peut-être à regarder leurs blessures, leurs souffrances, qu'ils en ont peut-être oublié de regarder aussi ce serpent d'airain. Oui, ne résistons pas à l'Évangile, ne le méprisons pas, ne le rejetons pas et ne le remettons pas à plus tard. Le tentateur, Satan, est présent. Il continue son œuvre de sape chaque jour à séduire par différentes ruses chacun de nous pour ne pas nous laisser entendre le plan du salut de Dieu, pour ne pas nous laisser prendre du temps auprès de Dieu, pour nous éloigner, toujours nous éloigner de plus en plus loin de Dieu. Et ce plan de Dieu, c'est Jésus-Christ, son Fils, qui nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir à Dieu que par moi. » Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissons pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Regardez à Christ sur la croix, mort pour nous sauver du péché, pour me sauver du péché, pour te sauver du péché, mort pour nous offrir la vie. Et avant de terminer, je vais quand même encore prendre un point qui est, ou dire une chose qui est aussi, imitons, par rapport à cette lecture aussi, imitons aussi Moïse. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que on pourrait imiter, on pourrait penser que là je vous dis, et c'est vrai d'ailleurs, imitons son obéissance à Dieu, demandons à Dieu aussi la même foi que celle qu'il a démontrée en suivant les ordres qui lui ont été donnés, avec ce serpent d'airain. Mais quand je dis imiter Moïse, c'est imiter Moïse dans l'acte qu'il a réalisé en élevant ce serpent d'airain. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que élever le serpent voulait dire le mettre en haut, visible de tous, visible de tous côtés. Et aujourd'hui, nous avons reçu, nous aussi, une mission qui est d'élever Christ, une élévation qui signifie aussi annoncer l'évangile de Jésus-Christ, afin que tous puissent le voir et le connaître. Tout ce que Moïse avait à faire était de suspendre le serpent à la vue de tous, rien de plus. Et ce que nous avons à faire, nous, avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le prêcher, l'enseigner, le rendre visible à tous. Par la prédication de l'Évangile, Christ doit être élevé comme un étendard vers lequel tous les yeux seraient dirigés, un étendard pour les nations, afin que ceux qui le regardent par la foi obtiennent le salut. Alors, frères et sœurs, je sais que vous avez déjà tournez votre regard vers Christ. Alors peut-être ce message, vous pourriez penser qu'il n'est pas pour vous, mais j'espère quand même que vous en retirerez un nouveau bénéfice de ce nouveau regard porté vers Christ que je vous invite à faire ce matin. Un regard qu'il nous faut continuer à porter chaque jour vers lui. J'aurais pu prendre un autre exemple sur ce regard avec Pierre qui marchait sur l'eau, qui a détourné le regard à un moment, qui est tombé. Oui, nous avons besoin de regarder à Christ, d'être renouvelé par ce regard vers lui chaque jour. Mais peut-être qu'il y a aussi une personne ce matin qui désire aussi être sauvée, qui ne l'a pas encore fait, de tourner ce regard vers Christ, qui sent peut-être qu'elle est en train de périr, qui sent en elle cette morsure du péché. Et à cette personne, je veux dire, ne perdez pas de temps à chercher à vous sauver par vous-même. Ne cherchez plus de temps à chercher d'autres solutions. Notre solution, le monde en propose beaucoup, mais aucune ne sera satisfaisante, aucune ne pourra vous guérir et vous sauver. Prenez ce remède efficace, ce parfait remède. Confiez-vous dans l'œuvre de Jésus-Christ et croyez. Croyez que son sang précieux a le pouvoir de guérir et de vous purifier de tout péché. Et alors vous serez sauvés. Je vais terminer avec un dernier passage de la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Pierre au chapitre 2, versets 21 à 24. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Alors que toute la gloire soit rendue à notre Dieu, à Christ, voilà, qui a donné sa vie pour nous. Amen.